Donc bienvenue au, j'allais dire au rescapé du nouvel an, parce que je sais pas, on n'est pas très nombreux, mais donc c'est en tout cas bienvenue à chacun d'entre vous pour cette première étude biblique de l'année. Et donc tous nos voeux de bénédiction pour cette nouvelle année, pour chacun d'entre vous. Alors je racontais à Hubert que notre sacristain, l'autre jour, quelqu'un lui disait « Bonne année, monsieur le sacristain !» Et il répondait bah, « Qu'est-ce que vous allez faire pour ça ?» Et c'est vrai que moi, ça m'a quand même fait réfléchir, c'est que, voilà, si on souhaite bonne année à quelqu'un, ça nous engage quelque part à se faire pour quelque chose, enfin, pour que lui donner une bonne année, voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on nous propose, bien sûr, dans l'Évangile, de recevoir la bénédiction et d'être source de bénédiction, ouais, d'être bénédiction même pour les gens. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Honore ton père et ta mère, mais qui est mon père, qui est ma mère ?» Alors on a proposé donc les textes que vous avez sur la petite feuille, avec le décalogue au milieu, et puis deux textes de l'Évangile. Bon, on pourrait penser à d'autres textes aussi. Donc, bienvenue à Jérôme, père Prigent. C'est une joie de se retrouver comme ça, catholique et protestant, dans cette maison.
Honore ton père et ta mère, mais qui est mon père, qui est ma mère. Donc, c'est un raccourci. Vous avez peut-être reconnu l'origine de ces citations. Honore ton père et ta mère, c'est le cinquième commandement pour les Juifs. Nous avons l'habitude de le considéré comme le quatrième commandement, puisque bien souvent il y a une petite ambiguïté sur le premier en fait, mais il y a plusieurs manières de compter ton père, tes pères et mères honorera. Pour ceux qui ont connu la formulation versifiée des commandements de Dieu, tels que les églises chrétiennes les ont transmises. Évidemment, tout de suite, honore ton père et ta mère, pour nous, ça peut résonner sur deux autres citations dans la Genèse. Quitte ton père et ta mère. L'homme quittera son père et sa mère, donc c'est aussi une injonction. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Honore ton père et ta mère. Et aussi dans le Lévitique, peut-être moins connu, tu craindras ta mère et ton père. Vous voyez, c'est à l'envers et... les rabbins se sont demandé d'ailleurs pourquoi on disait honore ton père et ta mère et crains ta mère et ton père. Alors traditionnellement, la Mishnah et le Talmud disaient que on n'est plus disposé peut-être à craindre son père, donc l'injonction de craindre la mère devient première et on est peut-être plus enclin à honorer sa mère, et donc le commandement met le père en premier. En tout cas, honore ton père et ta mère, c'est vrai que moi je l'entends spontanément quand on a retenu ce titre, je pensais donc à l'homme quittera son père et sa mère, et tu craindras ta mère et ton père. Donc ils sont d'une certaine manière des échos de ce quatrième ou cinquième commandement. Mais qui est mon père, qui est ma mère? C'est la question de Jésus, bien sûr, dans une page d'évangile que nous lirons, l'évangile de Matthieu. Alors c'est intéressant que ce soit Matthieu qui soit l'évangéliste qui relativise au fond l'appartenance à un lignage, à une filiation, parce qu'en même temps, l'évangile de Matthieu, comme on va le voir, est celui qui manifeste le plus clairement l'enracinement de Jésus dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire juive. Matthieu, l'évangile de Matthieu est probablement écrit par un scribe du temple qui connaît très bien les Écritures et qui a pour habitude souvent d'ailleurs de mettre en relation l'identité de Jésus, sa mission avec... des citations de l'Écriture, des citations d'accomplissement, une quinzaine dans l'Évangile. Donc l'évangéliste Matthieu est celui qui à la fois présente Jésus comme l'aboutissement du judaïsme, l'aboutissement de ce grand mouvement historique de révélation qu'est l'histoire d'Israël, et en même temps celui qui veut d'une certaine manière, montrer que Jésus n'est pas compréhensible uniquement par ses liens charnels, par les liens du sang. Et on va le voir dans cette page un petit peu dure, d'ailleurs, où sa mère et ses frères sont là, qui le réclament, et Jésus dit « Mais qui est mon père ? Qui est ma mère ?» Donc, vous voyez, l'évangile de Matthieu fait le grand écart hein, entre l'appartenance, la traçabilité culturelle, historique, et en même temps, le refus de soumettre Jésus à des conditionnements culturels, à des déterminismes, à des schémas sociologiques, anthropologiques, culturels, etc. Donc il va falloir essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc vous voyez une séance un petit peu provocante, puisque d'un côté on a ce commandement, honore ton père et ta mère, tous les rabbins ont commenté, hein, honorer dans la Bible, c'est pas le cursus honorum, hein, c'est pas l'honneur au sens latin. On est un peu piégé par le mot honorer. C'est pas l'honneur au sens d'une reconnaissance sociale. L'honneur, ça a un lien avec ce que les Hébreux appellent dans leur langue la kavod, c'est-à-dire le poids. Donne un juste poids à ton père et à ta mère. Donc il ne s'agit pas de les vénérer, précisément, hein, l'enjeu de l'idolâtrie est toujours là qui guette, hein, on le verra tout à l'heure. Il s'agit de donner un juste poids à son père et à sa mère, et alors tu pourras connaître de longs jours, dit l'Exode, ainsi que le Deutéronome, puisque nous avons deux formulations du décalogue. Voilà, tu auras de longs jours, et le Talmud commente en disant « Tes journées seront longues et pleines de sens ». Voilà. Donc ça c'est très très beau. Le commandement d'honorer son père et sa mère, de leur donner leur juste poids, donne aussi un poids à l'existence quotidienne, donne à la journée une longueur, une signification, une plénitude de sens.
Alors, oui, c'est intéressant, mais la cabote, je dirais que c'est même plus que ça, parce que donner du poids, oui, sûrement, mais la cabote de Dieu, en particulier dans les premiers livres de la Bible, donc dans l'Exode, la cabote de Dieu, c'est cette colonne de nuée dont on parle là, dans ce livre de Deutéronome, cette colonne de nuée qui donne la parole aux Hébreux, qui leur donne le décalogue et qui les guide dans le désert. Donc, c'est beaucoup plus que simplement le poids de Dieu, c'est un poids de Dieu bien sûr, mais c'est un poids qui est actif. Nous on dirait le Saint-Esprit en fait, la cabote de Dieu. C'est la présence agissante de Dieu dans son peuple pour le libérer, pour lui donner la parole, pour lui donner une impulsion de cheminement presque, je dirais malgré lui dans un certain sens. Sauf que bon, finalement ils sont d'accord, mais ça les stimule, ça les pousse, ça les aiguillonne à se mettre en route vers la terre promise. Donc, je dirais, honorer Dieu, c'est rendre justice à cette capacité de Dieu à nous donner la vie, à nous mettre en route. Et donc, pour honorer les parents, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est donner du poids, mais... Alors, c'est un peu dans les deux sens, peut-être, effectivement. Alors moi j'ai mis des numéros, là j'ai un peu triché hein, dans la feuille, j'ai rajouté des petits numéros, vous voyez, de 1 à 10, hein, et j'ai mis la numérotation juive en fait. Parce qu'en fait, on dit 10 commandements en français, mais c'est parce que la numérotation chrétienne, à mon avis, triche un peu sur la question, sur les numéros, parce que vous voyez au verset 4 en tout cas, du Deutéronome 5, hein, au milieu, la page du milieu, Yahvé donne une parole, hein, c'est monté sur la montagne, il dit 2 points, ouvrez les guillemets. Donc la première parole, elle commence là. Alors les chrétiens parfois, je suis Yahvé ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude, ils disent, bon, c'est un peu le préambule en fait. Et le premier commandement, ça commence à tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais à mon avis, c'est justement intéressant que ce décalogue, ce n'est pas que des commandements. Et ça commence par l'annonce de la grâce de ce Dieu qui est source de libération, qui, avant même que nous n'ayons rien fait, avant même que les Hébreux aient demandaient à Dieu de les libérer, gémissaient. Il y avait ce gémissement qui est entendu par Dieu comme une prière, bon, si on relit l'Exode 3, hein, et qui stimule Dieu pour, qui donne envie à Dieu de sauver son peuple, en fait. Et donc, la première parole, c'est une parole de grâce, et c'est une parole qui rappelle que Dieu est le premier à avoir libéré, et ensuite, quelque part, il dit... Il donne des pistes pour savoir quoi faire de cette liberté qu'il offre et qu'il donne. Et quelque part, ça pour nous aussi, c'est déjà quelque chose qui est important parce que ça nous donne une piste. Comme Dieu crée l'homme à son image, quand il y a des commandements, c'est pas simplement un ordre de mission qui est donné. Quand un supérieur, par exemple, je sais pas quoi, moi, un général en chef donne un ordre de mission à un de ses soldats, le général en chef, il n'y va pas forcément avec son panache blanc devant son petit soldat pour aller faire la mission. Non, il donne une mission, puis le petit soldat va faire sa mission, puis le général, il reste là à donner les ordres. Là, avec Dieu, c'est l'idée qu'on est créé à l'image de Dieu, donc Dieu est le premier à faire ce qu'il va nous dire de faire. Et donc, on a toujours à la fois une théologie et une éthique. Ça, c'est vraiment le propre, à mon avis, de la Bible, quand même. C'est que théologie et éthique, théologie et morale, sont les deux versants de la même pièce, en fait. Voilà, quand on dit quelque chose sur Dieu, on dit Dieu est créateur, ben ça nous dit, c'est peut-être pas mal quand même comme sens à votre vie d'être créateur. Ou quand on dit tu ne tueras pas, Dieu est le premier, voire le seul, à appliquer ce commandement de ne pas tuer, en fait. À mon avis. Donc ensuite, on comprend comme on veut, si vous voulez, on peut comprendre... Il y a des passages où Dieu massacre des gens, tel que si on le lit le livre à la lettre. Mais, à mon avis, ça veut dire, bon, des gens qui sont éloignés de Dieu, leur vie même est source de mort, ils sont source de mort et ils se tuent eux-mêmes dans leur comportement erratique. Donc jamais, moi je dirais que jamais, au grand jamais, Dieu ne tue quelqu'un, parce que quand il dit « tu ne tueras pas », il est le premier à ne pas tuer, en fait, voilà. Et donc... Dans le décalogue, vous voyez, il y a donc deux tables de la loi, traditionnellement, on dit, il y a deux tables, hein, c'est d'ailleurs souvent dans les cimetières juifs, vous voyez les deux tables, ou dans les temples protestants, il y a souvent hein, le décalogue qui est peint sur les murs avec deux tables, ça remplace les décorations qu'on peut trouver dans les églises catholiques, on a souvent ça, bon, à l'oratoire, on n'a pas ces tables de la loi, il y a un verset peint et une croix, mais en fait, assez souvent, la plupart des temples de France et de Navarre, il y a ces tables de la loi avec en forme de deux tables un peu arrondies en haut. Et donc la première table ou la deuxième, elle s'arrête où en fait? C'est là que le cinquième commandement, honore ton père et ta mère, est tout à fait particulier en fait. C'est que c'est le cinquième, mais est-ce qu'il est sur la première table qui parle de Dieu ou la deuxième table qui parle de l'éthique? Ben, c'est pas si clair, en fait. C'est pas si clair. Parce que, vous voyez, la première table, c'est honorer Dieu, c'est pas te prosterner devant d'autres dieux, devant des statues, c'est pas prononcer le nom de Yahvé en vain, c'est observer le jour du sabbat, parce que, voilà, Dieu a décidé que c'était le jour du sabbat, c'était important. Et puis, le cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Alors, assez souvent, on dit que ce commandement, il est encore sur la première table, en fait. Donc, honore ton père et ta mère. Qui est ton père, qui est ta mère? Bah, déjà, Dieu est père et mère, en fait. D'ailleurs, ce premier commandement, il est tout à fait particulier, objectivement, au sens, si on fait une analyse littéraire, simplement, hein, il est particulier. C'est l'apôtre Paul, il dit, ce commandement, honore ton père et ta mère, c'est le premier qui est accompagné d'une promesse. Hein, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux. C'est le seul qui a une promesse derrière. Donc il est particulier pour ça. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il le fait remarquer en disant c'est une assez bonne idée quand même aux enfants. Lui, il le lit à ce moment-là en sens éthique. C'est une bonne idée pour les enfants d'honorer ses parents et c'est une bonne idée pour les parents de ne pas énerver les enfants, nous dit Paul. Donc là, il est dans l'éthique pure, hein, si je puis dire. Sauf que dans l'apôtre Paul non plus, il n'y a pas d'éthique pure, il y a une théologie qui est accrochée. Mais bon... et puis, on peut remarquer aussi que c'est le seul qui est à l'impératif. Ça, c'est pas très facile à reconnaître, bien que, vous voyez, les autres sont quand même au futur. Donc, quand les ordres sont au futur, En même temps, c'est une promesse. C'est-à-dire que voilà, avec mon aide, dit Dieu, si vous vous laissez bénir, transformer par cette cabote de Dieu, par cette puissance de Dieu, à ce moment-là, vous arriverez à ne pas vous tuer mutuellement, en fait. C'est un peu une promesse. C'est pas juste... Alors que « honore ton père et ta mère », c'est un impératif. Il y a marqué, bon là, ça c'est un ordre, c'est clair. Et puis il y en a d'autres. Souviens-toi du jour, observe le jour du sabbat pour le sanctifier, ça ressemble à ça, mais en fait c'est un infinitif. Donc c'est encore un peu autre chose aux formes de commandement. Enfin bref, le cinquième commandement, c'est le seul qui est vraiment à l'impératif. Donc ça c'est aussi très particulier. Donc vous voyez, ce commandement, dans les 10 paroles, il est tout à fait à part pour ces raisons. Et puis il est à part aussi parce qu'il fait charnière entre les deux, c'est-à-dire qu'il est encore numéro 5, ou peut-être numéro 4, tu disais, parfois, non ?
Oui, non.
Même parfois numéro 4. Ouais. Mais moi je mettrais plutôt numéro 5 parce qu'il est justement encore sur la première table, mais déjà on bascule sur la deuxième, sur la suite en fait. Parce que « honore ton père et ta mère », donc c'est Dieu qui est déjà père et mère. On le retrouve d'ailleurs un peu... au début, hein, au verset 2, Yahvé notre Dieu, ou alors au verset 6, moi, Yahvé ton Dieu. Donc, Yahvé, c'est le tétragramme sacré. Si vous voulez, ça représente quand même plutôt le côté féminin, côté tendresse de Dieu, côté pardon de Dieu, côté. Alors que Dieu, qu'on appelle Dieu, Elohim, le Dieu El, c'est le Dieu Allah, quoi, finalement, c'est le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu qui rigole pas, en fait, hein, qui est créateur. Qui donne les ordres, qui appelle un chat, un pêcheur et un juste. Donc, vous voyez, ça, c'est moins, nettement moins, normalement, le Dieu de miséricorde, de pardon, de tendresse, qui cajole son enfant. Non, c'est le Dieu qui dit, ben, écoutez, les gars, vous rigolez pas, voilà, faut filer droit. Donc, honore ton père et ta mère, vous voyez, on a un peu ce... Parce que cette confession de foi, Dieu... La divinité est à la fois, il n'y en a qu'un d'abord, et en plus c'est à la fois Yahvé, Dieu de tendresse, tendresse maternelle, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, hein, le côté féminin de Dieu, et puis est à la fois le Dieu fort, créateur, puissant, etc. C'est en fait le génie incroyable du monothéisme hébreu, je crois. C'est là, d'ailleurs c'est la base, hein, de la confession de foi fondamentale des Juifs, un Dieu à la fois de tendresse et de force. C'est fou en fait. C'est fou. La tendresse, la force de Dieu, donc il n'y a pas marqué tout-puissant dans l'Ancien Testament, hein, ça c'est pas un scoop. La puissance de Dieu, c'est sa tendresse. Ça c'est quand même, c'est déjà presque tout l'évangile, si vous voulez, cette confession de foi juive. Donc là, honore ton père et ta mère, on pourrait dire déjà, honorer Dieu en tant que père et en tant que mère. C'est-à-dire l'honorer aussi bien dans sa force, c'est-à-dire, ben oui, il a dit ça, donc je vais le faire. On pourrait dire de la soumission, sauf que nous, on n'est pas tellement dans la soumission en question évangile. On pourrait dire dans le respect de ce que dit Dieu, parce qu'on pense qu'il est plus grand que nous, qu'il sait mieux que nous, qu'est ce qui est juste et bon. Et puis quand même, voilà, honorer Dieu en tant que mère, c'est-à-dire compter sur son pardon, sur sa miséricorde, sa tendresse. Donc là, il y a déjà, je crois, tout quelque chose de fondamental au sens de la foi, de honorer l'un comme l'autre. Ne pas oublier l'un pour l'autre. Là, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qui se dit. Oui, dans cette... Bonsoir, monsieur. Il faut prendre une petite feuille sur la table.
Oui, tenir en même temps la puissance et la tendresse, comme on tient en même temps la théologie et l'éthique. Au fond, c'est ce qu'on a vécu à Noël, hein, dans la contemplation de l'enfant de la crèche. Le mot « toute puissance », c'est un fantasme romain d'une certaine manière, et la toute-puissance de Dieu, bon, on en a déjà parlé, elle sera au bout de ce processus incroyable de création et d'enfantement du monde nouveau. La toute-puissance de Dieu sera. Et d'ailleurs, en hébreu, ce temps que l'on appelle l'inaccompli, qui est à la fois un présent, un futur, on le voit bien dans les psaumes. Hein. Dans les psaumes, on est toujours entre le futur, le présent. Cette toute-puissance, elle est l'objet de notre foi, de notre confiance. Nous sommes pris dans ce mouvement, nous participons à l'enfantement de la puissance de Dieu, mais de fait... lorsqu'on traduit le Seigneur, Adonai, El Shaddai, le Très-Haut, par le Tout-Puissant, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, et du coup, l'ambiguïté, quatrième, cinquième commandement, est-ce que c'est de la théologie? Est-ce qu'on est dans l'orthodoxie ou est-ce qu'on est dans l'orthopraxie? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le bien croire ou dans le bien faire? Puisqu'on dit souvent qu'au fond, la religion d'Israël est plus une orthopraxie, une éthique. C'est intéressant de voir qu'à la jointure, à la ligature des deux tables, il y a ce petit flottement entre ce commandement. Parce qu'on dit souvent, nous chrétiens, que notre religion n'est pas une morale. Ça nous agace, parce que des siècles de moralisme, effectivement, les teignoirs, les touffoirs, inhibiteurs, est passé par là. Mais de fait aussi, il s'agit quand même de faire quelque chose. Notre foi doit être active, hein, comme le dit Paul dans le premier écrit chrétien, dans l'épître aux Thessaloniciens, dans la première. Une foi active, une charité qui se donne de la peine, une espérance qui tient bon. Donc cette foi active, c'est effectivement la théologie qui devient éthique. Et bien sûr que nous avons à renoncer à une morale prescriptive qui borde tout et qui borne tout et qui inscrit la vie humaine dans une espèce de cadre qui étouffe la vie et qui étouffe la spontanéité et l'enthousiasme. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, bien sûr, que notre orthodoxie doit aussi être une orthopraxie. Et ce commandement, ce cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », ça veut dire, d'une part, au plan théologique, « Reconnais que ton père et ta mère participent de l'œuvre créatrice de Dieu », reconnais qu'en eux, tu as une sorte de contact avec le Dieu créateur. Dieu ne se donne que par des intermédiaires dans une religion incarnée. Dieu n'est pas un concept qui flotte au-dessus de l'histoire. Il n'est pas ce Dieu des philosophes, comme disait Pascal. C'est un Dieu qui se mouille, c'est un Dieu qui se compromet avec l'histoire et auquel on accède quand même, alors de mille manières bien sûr, mais de manière très privilégiée, en reconnaissant que le père et la mère participent de cette œuvre de création. Donc, d'une certaine manière, ils sont pris ils sont des collaborateurs, des co-créateurs, et en même temps, ça c'est le plan théologique, c'est la première table, et en même temps, la deuxième table, c'est que pour honorer son père et sa mère, ce poids, effectivement, c'est, alors, osons un oxymore, c'est une légère pesanteur, effectivement, c'est l'esprit, c'est quelque chose de dynamique, ça n'est pas le poids des bascules romaines, c'est un poids qui entraîne, c'est pas un poids d'inertie, c'est un poids qui entraîne, qui fait basculer dans le changement, dans la transformation. Et donc, ça implique évidemment des actions concrètes. Les commentateurs de ce commandement disaient toujours, d'ailleurs, qu'honorer son père et sa mère, c'est leur céder la bonne place à table, par exemple. C'est ça, dans une religion juive qui n'est pas seulement patriarcale, qui respecte le père et la mère, c'est ne pas contredire le père et la mère à table. On trouve ça dans le Talmud, c'est honorer les dettes quand ils sont morts, parce qu'une manière de reconnaître la paternité et la maternité, c'est aussi de maintenir leur mémoire, non pas, comme dans les religions païennes, par un culte des ancêtres, de nature toujours un peu spiritiste, un culte des esprits, et l'Europe a connu ça aussi. Encore dans nos provinces françaises, le culte des ancêtres est évidemment très, très ambigu, ce culte domestique. Ça n'a jamais existé. Ce culte-là, chez les Juifs, on recommandait de dire un kiddush une fois par an pour l'anniversaire de la mort, un peu comme on dit aujourd'hui un service de requiem, une messe ou un culte pour marquer l'anniversaire de la mort. Mais il n'y avait pas de culte des ancêtres. Le kiddush ou toute autre prière faisait l'affaire. En revanche, s'acquitter des dettes, vous voyez, c'est très concret. Un certain nombre d'autres réalités que j'avais notées mais que je ne retrouve pas, mais qui montrent bien que honorer son père et sa mère, ça impliquait de les laver, bien sûr, de les nourrir, éventuellement de mendier à leur place si on ne peut plus les entretenir leurs vieux jours, etc. Donc ça allait évidemment très loin, et vous voyez que la reconnaissance de la paternité de Dieu n'était pas une reconnaissance abstraite ou uniquement dogmatique, comme on dit, mais que le dogme a évidemment, pour la société juive, des implications extrêmement incarnées.
Alors, oui, c'est vrai qu'à travers ces illustrations, ces commandements juifs, sa manière de le lire, ça nous rappelle quand même, effectivement, que nos parents sont dans le premier cercle de nos prochains. Et donc, en attaquant, si je puis dire, la deuxième table, de dire « honore ton père et ta mère », parce que tout le reste, tu ne tueras pas. Enfin, c'est vrai que c'est quand même mieux de ne pas trop tuer son prochain, c'est quand même mieux de ne pas trop le voler. Donc, c'est vrai que c'est assez... on entre dans une deuxième table et on commence par les parents, en disant « voilà, le premier cercle, c'est d'abord... » d'abord ses parents. Alors je trouve qu'il y a là quelque chose qui est intelligent, déjà pour simple reconnaissance, déjà que nos parents nous ont donné la vie, mais on peut le lire aussi dans l'autre sens, en honorant ses parents, quelque part, on se laisse encore enfanter par eux, c'est-à-dire qu'on reçoit d'eux quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation, qui est de l'ordre des générations passées. Et donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire, on prend en compte leur histoire, ce qu'ils sont. Quand tu disais ne pas contredire à table, c'est vrai que ça se faisait quand on était petit, c'est comme ça qu'on a été éduqué, mais cela dit, les enfants ne parlent à table que si on les interroge. Mais maintenant, c'est plus trop comme ça, peut-être que... pas toujours ni dans le mauvais sens, ça dépend hein, comment on voit les choses. Mais c'était l'idée, je crois, de prendre en compte et prolonger les jours. Ça peut être ça, c'est l'idée de transmission, l'idée de fidélité au passé, mais pour continuer, afin que tu sois heureux, c'est-à-dire qu'il y ait du bon pour toi, finalement, littéralement. C'est pas forcément la question de bonheur, il n'y a pas ce mot vraiment bonheur dans l'hébreu comme peut y avoir en français, c'est plus large que ça. Du bon, le mot bon dans la Genèse, c'est ce qui qualifie quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc c'est l'idée de se laisser continuer, c'est Tov, oui c'est ça, se laisser continuer à créer dans cette prolongation, voilà. Donc oui, honorer père et mère, c'est d'abord, je crois, une question de foi, donc orthodoxie, mais aussi une foi juste qui laisse place à l'Esprit Saint, laisse place à l'action de Dieu pour nous engendrer, parce que en faisant place ainsi vraiment à Dieu comme dans sa puissance. Et il y a une petite feuille sur la table si vous voulez pour derrière, il y a une petite feuille derrière pour si vous voulez pour suivre les textes. Donc en laissant une place à Dieu, on se laisse engendrer par lui, finalement, on se laisse créer par lui. Donc c'est en ce sens qu'il devient père et mère quand on l'honore. C'est pareil pour les parents, quand on fait justice à ce que sont ses parents, on se laisse encore un peu enfanter par eux. Mais il y a une troisième façon, je pense, dont on peut lire ce « honore ton père et ta mère », c'est honorer ce qu'est père et mère en nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire aussi... C'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on est créé à l'image de Dieu, donc si Dieu est père et mère, on est appelé nous-mêmes à être père et mère. Et à honorer cette capacité en nous, capacité créatrice. Alors, bien entendu, pour nous qui sommes équipés, quelques-uns d'entre nous équipés de fonctions génitales plutôt masculines, on a du mal à enfanter au sens littéral du terme, bien que, si vous voulez... évidemment, la fécondité de vie dans la Bible et encore plus dans les évangiles, elle est biologique. C'est vraiment une bénédiction. Il n'y a pas du tout dans la Bible hein, de, Je pense pas tellement, hein. Peut-être un peu dans certains passages de Paul. Il n'y a pas tellement d'éloge du fait d'être vierge, de ne pas avoir d'enfant, pas tellement. Ça a pu apparaître à un certain moment dans les premières lettres de Paul, quand ils pensaient que le royaume de Dieu allait arriver dans les 15 jours. Ils ont dit, bon, écoutez, maintenant, si vous vraiment vous brûlez, c'est-à-dire de désir sexuel, bah, écoutez, mariez-vous, faites des enfants, c'est très bien. Mais cela dit, ce n'est pas l'heure de faire ça, ni même tellement de travailler finalement, parce que le royaume de Dieu va venir dans les 15 jours, donc ce n'est plus la préoccupation. Et puis dans les lettres de Paul, progressivement, on voit qu'ils se rendent compte, ils percutent que le royaume de Dieu, c'est une façon d'être, une façon de s'ouvrir à cette dynamique de Dieu dans notre existence. Et que nous sommes dans les derniers temps, mais on est dans ce basculement dans la venue du royaume, mais que ça va prendre des millénaires. Et à ce moment-là, Paul recommence à dire, bah, écoutez, il faut vivre dans ce monde et vivre autrement. Donc il recommence à dire, bah, si, il faut se marier, il faut faire des enfants, il faut travailler, lui-même travaille, coup détente, etc. Donc, à part cet épisode, j'allais dire, de quelques années où les premiers chrétiens se sont demandé s'il n'y allait pas avoir le royaume de Dieu qui allait venir dans les 15 jours. À part ces quelques années-là, je ne sais pas combien de temps ça a pu durer cet épisode, peut-être 10, une dizaine d'années peut-être. Mm-hmm. Et ensuite, les premiers apôtres ont commencé à mourir et ils se sont commencés à se dire, bon ben non, en fait, il faut comprendre les choses différemment. Et à mon avis, quand on regarde les évangiles, déjà au moment de la rédaction des évangiles, ils sont dans l'idée que le royaume n'est pas de ce monde, que on est dans une venue du royaume qui est continue, un royaume qui advient. Voilà. Et donc, globalement, je crois que, oui, honorer le Père et la Mère qui est en chacun d'entre nous, c'est être un peu à l'image de Dieu, être source de fécondité. De fécondité, éventuellement en faisant des enfants, parce que c'est vraiment une des bénédictions, une façon d'avoir une vie féconde, bien sûr. En élevant des enfants aussi, pas forcément ceux qu'on a pondus, si je puis dire. C'est parce qu'on peut aussi adopter des enfants, on peut aussi rayonner dans le monde en étant bénédiction, autrement, simplement, que par la génitalité. Et ça, c'est très clair. Voilà. Et puis même, on peut enfanter des enfants au sens du sang et puis ne pas bien s'en occuper au sens de l'éducation. C'est vrai que la vie humaine est très très riche, hein. On le voit dans la Bible, c'est pas simplement un corps, bien entendu. Donc cette fécondité, elle se décline, hein, sur le cœur, sur l'âme, sur la force, sur la pensée, je dirais même sur le côté artistique, qui n'est pas absent de la Bible, bien entendu. La fécondité de vie est là-dedans. Donc en fait, on est appelé à être père et mère, tous à la fois, que nous soyons hommes ou femmes, c'est-à-dire féconds en même temps par notre force, notre côté créateur, pour transformer le monde comme roi finalement, mais aussi par notre tendresse, notre capacité à aimer, à pardonner, à faire la paix, notre douceur. Et je crois que ça aussi, voilà, honorer père et mère, c'est ça aussi, c'est honorer père et mère en soi-même.
Alors bien sûr, accorder le juste poids à ses parents, c'est évidemment d'un côté, parce qu'il s'agit toujours, hein, dans l'éthique juive, d'une ligne de crête, d'un chemin entre deux morts, d'une certaine manière, le choix de la vie est toujours un chemin exigeant. Alors, il s'agit bien sûr de refuser l'indifférence, et au fond, si ce commandement existe, c'est que dans la société de l'époque, il devait y avoir des parents qui étaient mis à l'écart, ou ça a toujours existé dans toute société, qui n'étaient pas effectivement respectés, vénérés. Mais à l'inverse, accorder le juste poids, c'est aussi ne pas tomber dans la fascination, dans l'excès de vénération, hein, qui confinerait à l'idolâtrie. Et ça, c'est aussi effectivement un problème, source de bien des névroses d'ailleurs, un psychanalyste pourrait le dire, parce que précisément, si on est dans l'excès de vénération, qui n'est pas le juste poids, qui n'est pas le juste honneur à donner à ses parents, parce qu'on peut très vite absolutiser ce commandement, c'est pour ça que je le dis. Si on est dans l'excès de vénération, on est dans l'idolâtrie et d'une certaine manière, il n'y a plus puisque l'idolâtrie fascine, elle aveugle, elle ne libère pas l'espace de l'autonomie responsable. Or, le juif est toujours un sujet responsable, acteur de sa vie, à qui Dieu peut demander des comptes. Il est l'interlocuteur de Dieu, il est partenaire de Dieu, il n'est pas le sujet de Dieu, il n'est pas l'esclave de Dieu, il n'est pas le serf, il est, ou plutôt, cette servitude, il l'a à la choisir, mais sa nature de créature est de devenir fils, précisément, un fils libre, et de ne pas entrer dans l'idolâtrie du passé. Et c'est ça la grande difficulté, parce qu'alors, la transmission de l'identité qui se fait à travers la filiation n'est plus ouverte à l'histoire, n'est plus ouverte à un avenir. Or, l'histoire d'Israël, c'est précisément de dire que le temps a du poids et qu'il y a un sens, que l'humanité va vers un destin, et que ce destin n'est pas la répétition tragique d'un enfermement dans des schémas répétitifs, mais qu'au contraire, on engendre des sujets libres. Donc, l'excès de vénération tue la liberté. Et il faut donc libérer un espace pour une autonomie, pour l'histoire, et donc refuser d'une certaine manière aussi l'imitation servile de ses parents. Vous me direz aujourd'hui, on n'est pas confronté à ça parce que nous vivons dans une civilisation qui a connu des mutations très fortes, et nous ne vivons pas comme vivaient nos parents, ou comme eux non plus ne vivaient pas comme leurs propres parents, mais de manière très subtile, on peut endosser des schémas d'imitation qui sont très insidieux, en fait, où on reproduit des erreurs, où on veut imiter parce qu'on est freiné, parce qu'on est inhibé. Et précisément, la juste manière d'honorer les parents doit se frayer une ligne de crête, un chemin entre l'idolâtrie et l'indifférence, qui est aussi une forme de meurtre, en fait. Donc, si on ne veut pas entrer dans un schéma déterministe, c'est-à-dire où tout est bloqué, où le sens de ma vie est d'une certaine manière piloté par celle de mes parents, eh bien, il faut aussi accepter de ne pas idolâtrer ses parents, de ne pas les considérer, de ne pas les substituer à Dieu, mais de voir qu'ils sont pris de manière très mobile, très dynamique, dans un mouvement, mais de ne pas les mettre sur un piédestal d'une certaine manière. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre, vous savez, les fameuses mises en garde de Dieu qui dit « je suis un Dieu qui punit jusqu'à la quatrième génération ». Ça ne veut pas dire, comme on le croit souvent, que Dieu a la rancune tenace et qu'il punit la faute du père sur le fils. C'est qu'il met en garde précisément contre ce schéma qui va complètement empoisonner la vie de la fratrie ou la vie de la famille, de la cellule familiale, du clan familial, en reproduisant les mêmes schémas. Et il dit « attention, dans ce cas-là, vous allez reproduire le même schéma mortifère, la même malédiction, vous allez vous auto-injecter une espèce de venin, et ça peut durer, et c'est seulement à la quatrième ou cinquième génération qu'en relisant l'histoire, on se dit oh, « on a refait la même erreur que le grand-père, etc. » Donc vous voyez, c'est pas un Dieu qui maudit, c'est au contraire un Dieu qui met en garde et qui dit « attention, si vous entrez dans une relation faussée avec ceux qui vous ont engendré, avec votre passé, avec votre histoire, avec le lignage, eh bien, vous allez aussi empêcher l'histoire, vous allez aliéner l'histoire, vous allez la faire patiner sur elle-même, si vous me permettez cette image. Et donc, je crois vraiment que, en fait, ce commandement est un commandement de grande santé psychique. Et par ailleurs, bien sûr, honorer, c'est aussi pardonner. Aujourd'hui encore, nos frères juifs, au moment de Kippour, qui est la fête du grand pardon, mettent l'accent là-dessus. Vous savez, sur toutes ces petites offenses qui viennent de la famille, ces blessures, ces blessures, eh bien, il ne faut pas les effacer, il faut d'une certaine manière les offrir, les transformer, les pardonner, mais les pardonner, ça n'est pas les offenser, et découvrir alors, je pense que c'est la grande force de la fête de Yom Kippour, découvrir que notre histoire, c'est de vivre avec des blessures, mais en atténuant leur charge affective, si vous voulez. On ne peut pas les effacer, ces blessures. Nous vivons avec et nous avons tous eu ces moments de révélation où finalement notre désir infantile était frustré parce qu'on découvrait que le père ou la mère préférait un tel ou bien nous disait assez vertement à quel point nous les avions déçus. Et ce sont des moments dont certaines personnes ne se remettent que très difficilement. Or, ce sont des moments essentiels. Et je dirais que toute la Bible n'est que cette histoire de croissance en acceptant ces petites frustrations. Et de découvrir que ces frustrations, ces blessures, en les intégrant à notre mémoire, on peut en atténuer effectivement la charge affective, la charge douloureuse. Donc, honorer son père et sa mère aussi, c'est accepter d'entrer dans ce schéma de pardon.
Oui, donc j'ai bien aimé ce que tu disais sur le pas statifier finalement ses parents, oui. Le pas statifier Dieu, parce que ça, c'est le commandement numéro 2, voilà, finalement, qu'on retrouve au verset 9. Hein. Si on les transforme en statues, nos parents, ou notre passé, ou notre culture, ou notre théologie finalement aussi, hein, eh bien, du coup, on est dans un vrai problème quand même. Et c'est vrai ce que tu disais, mais sauf que là, quelque chose de rigolo, c'est que il y a marqué que Dieu punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. En fait, c'est ce que disent les psychanalystes, c'est que les fautes provoquent des répercussions sur 3-4 générations, sauf qu'en fait, le verbe hébreu, c'est derrière ce qui est traduit ici par punir, en fait, c'est pakad, ce qui veut dire visiter, en fait. Et c'est simplement une surinterprétation du traducteur qui dit Dieu visite les fautes, bah forcément il punit. Bah non, pas forcément il punit, justement. Non. C'est que quand il y a un vrai problème, c'est-à-dire quand tout d'un coup quelqu'un est sclérosé dans une idolâtrie, c'est ce que tu disais, soit des parents, soit de sa culture, soit de ses propres précompréhensions, ou de sa théologie, ou de sa... Voilà. Dieu ne réagit pas par le rejet, bien entendu, c'est ce qu'on voit en Christ particulièrement. Il redouble de pédagogie, et donc il visite, c'est-à-dire qu'il se rend présent, donc, puisqu'on est au jour des... un peu le jour des rois, voilà. Hein, donc il y a une théophanie, c'est-à-dire que Dieu se montre, se... rend visite à l'homme, se montre pour le sauver, pour le libérer. Voilà, Dieu est une source de libération. Et donc, il nous appelle à nous libérer de nos idoles, de nos statues de sel. Et ce que tu disais sur le pardon, c'est important tout à fait aussi, c'est sûrement fondamental. Mais dans l'idée de libération, voilà, Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage. Le pardon, c'est ça aussi, finalement. C'est, parce que quand tu disais ça, j'entendais, voilà, ça, c'est que Dieu est source de libération pour nous faire sortir aussi de nos rancunes tenaces, des choses que l'on ressasse, et puis des cadavres dans le placard, l'arrière-grand-père qui... qui trompait avec, voilà, notre grand-mère a couché avec son cousin et a enfanté je sais pas qui, si vous voulez, ce genre de truc, on y en a tous dans toutes les familles, mais tant que ça n'a pas été dit, tant que c'est pas sorti, tant que c'est pas pardonné, eh bien c'est comme une blessure infectée qui malgré nous, même sans que nous en ayons vraiment conscience, continue à venir infecter. Et bon, c'est au-delà même du pardon, c'est de l'ordre de la guérison. Alors ça peut passer par l'expression d'un pardon, mais c'est plus profond, c'est de l'ordre d'une résurrection, et donc il n'y a que Dieu qui ressuscite, et on a besoin, je crois, de cette visite de Dieu qui vient nous libérer de ces trucs sans cesse ressassés dans notre conscient ou dans notre inconscient, finalement.
Et de nous libérer de nous-mêmes.
Et de nous libérer de nous-mêmes, voilà, de choses qui tournent à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, oui. Et puis quand tu disais, voilà, honorer son père et sa mère, c'est très concrètement éthique, je pensais perfidement à notre loi française. J'ai été étonné de voir que dans la loi française, il y a le rapprochement familial. Par exemple, quelqu'un, un Togolais, qui a des enfants au Togo, il peut faire venir ses enfants. Mais on ne peut pas faire venir sa vieille maman. Donc dans la loi française, le rapprochement familial, c'est pour nos descendants, c'est pas pour les parents. Et ça, c'est quand même incroyable. La famille, c'est les enfants qu'on a produits, c'est pas nos vieux parents. Et ça, c'est vrai que, si vous voulez, c'est inscrit dans la loi française, mais dans nos mentalités, je crois que un peu aussi. Un peu aussi, c'est-à-dire que, trop peut-être, on honore ses parents en élevant bien ses enfants, et puis on peut laisser crever ses vieux parents dans leur coin. Mais ça, si vous voulez, je dis ça comme ça méchamment, mais je veux dire, combien de fois, nous, dans notre pastoral, on rencontre ces situations-là, finalement. Et les parents qui acceptent, finalement. « Ah, mais mes enfants, oui, ils ne viennent jamais me voir, mais bon, ils ont des enfants, ils s'en occupent très bien. » Je veux dire, et alors, ce n'est pas le problème. Comprenez ? Donc, je crois que c'est quand même ces commandements-là, et quand on est en contact avec, on est avec la mondialisation, si vous voulez, on est en contact avec plus de peuples, eh bien, en Afrique, en Asie, on a un respect, on laisse du poids, même, je dirais, dans... Il y a en Afrique, on voit, il y a le vieux grand-père est un peu gâteux, il chevrotte dans son coin, ben on l'honore quand même. Le pépé, il raconte un peu des trucs, c'est pas toujours plein de sens, mais n'empêche qu'à table, c'est ce que tu disais, on le contredit pas. On l'écoute, je veux dire, il y a un respect, pas simplement qui est bon pour la personne qui est respectée, mais qui quand même, qui est fondamental, je crois, quand même, dans une certaine façon d'être. Exactement comme ça, hein, pour que tes jours se prolongent, il y a une façon à ce moment-là de poser sa vie dans un respect profond pour ce qui a donné la vie, pour ce qui donne la vie, voilà. Et il y a quelque chose là, quoi, qui se joue de la dignité même de l'être humain d'une manière fondamentale. Voilà, on reconnaît l'autre et en premier lieu ceux qui nous ont donné la vie. Je crois que c'est quand même assez sain. Ça y est, déjà, oui, déjà.
On peut peut-être passer au Nouveau Testament.
À moins que vous ayez des choses à dire sur ces textes du Décalogue, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez comme remarques, puisque nous sommes un peu moins que nombreux que d'habitude, on peut plus facilement participer, peut-être, hein, si certains...
Qu'est-ce que comprenez-vous par « afin que se prolongent les jours » comme conséquence?
Moi, il me semble, afin que se prolongent les jours, c'est honorer père et mère. C'est vrai que quelque part, c'est porter un regard vers ce qui nous a donné la vie dans le passé. Mais c'est vrai qu'il y a en même temps, c'est ce que disait Jérôme, c'est qu'on n'est pas simplement dans honorer le passé, fidélité au passé, mais si on fait de l'histoire, finalement, si on fait de la théologie, si on lit la Bible, c'est pas pour ressasser des vieilles histoires. C'est quand même en vue de l'avenir, en vue d'être source de vie. Et donc c'est pas du passéisme, c'est pas des vieux machins. Non, c'est une façon saine de se laisser enfanter par ce qui était bon dans le passé pour que ça produise encore de la vie. Et moi j'y verrais ça. Ça me rappelle un passage que j'aime beaucoup dans Jean 15, à partir du verset 9, je connais même la référence par cœur. Jésus qui dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour et aimez-vous les uns les autres. » Donc vous voyez, on se laisse construire par l'amour qu'on a reçu, comme capable d'aimer à notre tour. Mais ça, je crois que c'est hyper vrai. C'est-à-dire, la louange, c'est pas simplement pour rendre justice à... Nos parents, s'ils nous ont fabriqués, Dieu, s'il nous sauve, etc., ils l'ont fait de bon cœur, donc on ne leur doit rien, si vous voulez. Dieu nous a fait grâce, nous a donné la vie, on ne lui doit rien, il l'a fait parce que ça lui faisait plaisir. Donc il est déjà payé largement par le plaisir qu'il a eu à créer cette chose merveilleuse qu'est l'homme. On ne lui doit rien, c'est la grâce pure. Et la grâce, ça ne s'achète pas en amont et ça ne se rembourse pas en aval. C'est comme les gens ayant fait des cadeaux et... Ils veulent absolument vous faire un cadeau. Bon, on a donné un, On a donné une boîte de chocolat, ils veulent vous offrir un frigidaire, comme ça, vous voyez, ils auront l'impression, voilà, on ne lui doit rien. Ouais. Ça, c'est vachement pénible, si vous voulez. Les gens font un cadeau, bah, ils ont fait un cadeau, ça leur faisait plaisir de donner un cadeau, c'est gratuit, on ne leur doit rien. Voilà. Moi, je trouve, c'est comme ça, on est dans la grâce. Donc, je crois que c'est ça. Honore ton père et ta mère. C'est pas parce qu'ils nous ont donné la vie qu'on leur doit absolument les rembourser. Non. Ils nous ont donné la vie, ben merci beaucoup. C'était leur fécondité, c'était leur joie, c'était leur douleur, mais c'était, voilà, ils l'ont fait de bon cœur, voilà, on leur doit rien. Mais c'est justice, c'est une bonne idée. En honorant ça, finalement, ben de nous-mêmes nous enrichir et enrichir encore de ce très bel acte, voilà, qui a été à l'origine de notre vie, s'en nourrir ben, pour être nous-mêmes capables de fécondité, en se disant, ben voilà, c'était merveilleux, je m'en nourris pour moi-même être... Voilà, comme le Christ, il s'est laissé aimer, il se laisse nourrir par ça, il ressasse, il rumine cet amour de Dieu, et ça le rend capable d'aimer les autres. Et il nous propose d'entrer dans cette dynamique. Alors ensuite, bon, il ne faut quand même pas être chien, c'est-à-dire que si on a de la reconnaissance pour quelqu'un... On a le droit, mais justement, c'est par grâce aussi. On doit rien à nos parents. C'est pas parce qu'ils nous ont donné le biberon et puis ils nous ont lavé les fesses quand on était petit qu'on doit forcément, on doit rien. Mais par simple reconnaissance, et je pense que là, c'est une bonne circulation de grâce, de la grâce en nous. C'est quand même sain, c'est quand même juste, c'est quand même beau, ben, en rendant grâce de. Je dirais de les aimer, de les entourer, c'est simplement une bonne idée, c'est quoi ?
C'est de l'amour.
C'est de l'amour, oui. C'est de l'amour. Oui. Mais c'est là que c'est sympa si c'est fait par grâce, par amour et par amour. Pas, je dis, je le dois, donc je vais le faire. Mais ça sent le, vous voyez, ça sent le salaire, ça sent le devoir, ça sent
ça
pas
sent
l'amour.
La dette.
Ça sent la dette. Mais ça, on crève.
C'est une délivrance de la dette. Ça.
Parce ouais. que ça... après tout ce qu'on a fait pour lui, il pourrait quand même. Mais ça veut dire c'est terrible parce que on est dans la dette, alors on est dans le devoir. Ben, il faut le faire. Alors on envoie à la gueule de quelqu'un frigidaire parce que voilà, on lui doit un cadeau. Mais c'est insupportable si vous voulez. Alors que si c'est fait, ben non. Voilà, je suis content de le faire. À ce moment-là, ça devient magnifique, merveilleux et source de vie. Donc là, je crois que c'est ça. Il ne s'agit pas de le faire parce que c'est marqué, etc. C'est une saine circulation, voilà. Honorer, mais même, quelqu'un nous a fait du bien, quelqu'un nous a aimés. L'honorer, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement en avoir profité, mais c'est de se dire, peut-être au soir de sa journée, dans la prière, se dire, mais ça, c'était quand même une bien belle chose, quoi. Et se laisser construire par ça. Et du coup, oui, les jours se prolongent, vous voyez, ces jours se prolongent, c'est-à-dire que c'est orienté vers un avenir plus beau, afin que tu sois heureux sur la terre, afin qu'il y ait du bon, c'est-à-dire que ça enfante, oui, dans cette louange, ça enfante encore et encore, ça fasse boule de neige pour le bien, pour le bonheur, voilà.
Et puis, je pense, toujours dans le même ordre d'idées, qu'il ne faut pas oublier que le peuple hébreu, à ce moment-là, au fond, enfin, le premier millénaire, est environné par des peuples qui sont fascinés, obsédés par l'origine, hein, dans les mythes, les cosmogonies, des peuples qui ont peut-être plus de mal, c'est un cliché, j'en conviens, qui ont plus de mal à entrer dans une histoire, au fond. Hein, qui sont plus dans quelque chose, un temps plus cyclique, etc. Et effectivement, obsédés par l'immémorial, ce dont il faut absolument garder mémoire, l'origine du monde, tous ces mythes proche-orientaux, etc. Et ici, justement, ce commandement, et c'est pour ça, enfin, plus je le lis, plus je m'aperçois que c'est assez génial, c'est-à-dire qu'il nous dit de nous défaire de ça, tout en étant, non pas dans la dette, mais dans la gratitude, dans la reconnaissance, que cette paternité, cette maternité vienne d'ailleurs, et de se laisser prendre effectivement dans ce mouvement qui ouvre à la vie et qui finalement au soir de sa vie rend peut-être le détachement ultime plus facile aussi parce que voilà, évidemment le christianisme va aller plus loin à mon avis parce que là on est encore dans un schéma où la famille et les familles nombreuses sont des bénédictions. Le christianisme va dire oui, mais il ne faut pas absolutiser le clan, la reproduction des mêmes schémas familiaux, précisément parce que l'histoire est ouverte sur autre chose qu'elle-même, l'histoire n'est pas close sur elle-même. Alors déjà, le judaïsme est une sortie du tragique, mais il y a peut-être le risque, effectivement, de voir dans ces schémas de paternité, filiation, qui se suivent et qui se ressemblent, au fond, sans se ressembler complètement, peut-être une clôture de l'histoire encore que, d'une certaine manière, la révélation chrétienne va un petit peu... va rendre moins absolutiste. Mais ça, on en reparlera, puisque le choix de vie du Christ lui-même est précisément, sans exalter bien sûr le célibat, le Christ précisément n'est pas tout à fait dans le même, dans le même schéma. On l'a vu la dernière fois, sa généalogie n'est pas tout à fait nette. Il a un père et une mère, certes, c'est la sainte famille, mais bon, c'est une fille mère, c'est un père dont on ne sait pas trop s'il est père, etc. Et puis lui-même n'a pas d'enfant, donc le Christ ne vient pas contester ça, mais il vient relativiser d'une certaine manière ce que peut être la famille.
Et c'est ce qu'on va voir là, voilà.
C'est ce qu'on va voir tout de suite, évidemment, avec le texte de Luc. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de le lire, c'est le texte que l'on appelle du recouvrement au temple, où Jésus, à 12 ans, est retrouvé par ses parents. Alors, ce texte de Luc, qu'on lit finalement peu dans la liturgie, je ne crois pas que dans la liturgie dominicale ce texte apparaisse, dans le cycle triennal, dans le cycle des trois années. Vous voyez que Marc a choisi de prendre le verset qui est au début et qui précède au fond le récit et le dernier verset, vous voyez, comme une sorte de refrain. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissait de sagesse. Et verset 52, quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je dis une forme de refrain parce qu'il apparaissait une première fois appliqué à Jean le Baptiste. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi un autre refrain dans ce récit, c'est « Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur » que l'on trouvait déjà après, non pas après l'Annonciation, mais après la venue des bergers. Texte qui est le texte de la messe de l'aurore dans les trois messes de Noël de la liturgie catholique et qu'on peut lire aussi à d'autres moments de la fête de Noël. Donc c'est très très beau, après la vénération des bergers, puis ici, et je me demande s'il n'y a pas une troisième fois, mais justement j'ai regardé très vite, je pensais qu'après l'adoration des mages, mais ça n'est pas certain, il faudra que je vérifie. Donc deux refrains, et deux refrains qui personnellement me touchent énormément, parce que je pense que les deux touchent au temps, la croissance. Certes, Jésus est déjà Dieu dès qu'il est tout petit, mais il y a quand même une croissance. Est-ce que ça veut dire qu'il devient plus Dieu ? Oui et non. Il y a de la croissance en Dieu. Et de fait, les théologiens le disent d'ailleurs. Ils le disent même, saint Thomas d'Aquin le disait, dans la vision béatifique, eh bien, nous ne serons pas statiques. Il y aura encore un espace de désir, de tension et de croissance, d'accroissement de notre être. Donc il y a là le mystère du temps, hein. Cet enfant qui croit en sagesse, en grâce, alors c'est magnifique. Et même chose, ce sont deux refrains qui touchent au temps et à l'identité. Donc le temps de la croissance et effectivement l'identité de cet enfant Jésus. Et puis dans la méditation de Marie, la méditation implique aussi du temps. Et Dieu sait, si j'ose dire, qu'elle en a eu du temps pour méditer sur le destin de son fils, pour comprendre dans cette vie cachée, dans cette vie extrêmement humble de Nazareth. Elle en a eu du temps pour entrer dans une compréhension intime, charnelle, mais aussi tissée, nourrie des textes de l'Écriture qu'elle connaissait, hein, cette fille de Sion. Mystère aussi du temps et mystère aussi de l'identité, parce que l'objet de cette méditation, c'est quand même probablement de se demander qui est ce fils qu'elle aime et qu'elle voit grandir. Donc vous voyez deux refrains qui sont liés au mystère de l'identité de Jésus et au mystère de la temporalité. Alors cette page est très étonnante parce que c'est une auto-révélation, c'est une scène où Jésus dit en fait voilà, qu'il est dans la maison de son père. C'est la première fois qu'il parle dans l'évangile et il parle de son père. Le dernier mot de l'évangile de Matthieu sera aussi « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». L'évangéliste Matthieu, Luc ici, pardon, fait ce qu'on appelle une inclusion, un peu comme Matthieu le fait en parlant d'Emmanuel, Dieu avec nous, et à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », c'est-à-dire « Je suis Emmanuel ». Eh bien ici, Luc fait un petit peu la même chose, non pas comme Emmanuel, comme Dieu avec nous, comme présence du Dieu d'Israël à l'histoire des hommes, mais comme fils d'un père. Et ça me semble très intéressant. Alors, d'autre part, bon, il a 12 ans, c'est l'âge de la bar mitzvah, c'est l'âge qu'a le prophète Samuel lorsqu'il est appelé dans le temple de Silo. C'était la lecture d'aujourd'hui, et ce sera d'ailleurs la lecture de dimanche aussi, la vocation de Samuel. Et c'est aussi l'âge du prophète Daniel dans la fameuse histoire de Suzanne et les vieillards. C'est Daniel qui rend son premier jugement et qui a aussi cet âge-là. Donc c'est l'âge où on n'est pas encore majeur dans la société juive, mais où effectivement, où le garçon est encore sans barbe, comme on disait, et effectivement, nul doute que cet âge revêt un certain symbolisme. On sent bien que les parents tombent un peu des nues, donc on a l'impression que tout ce qui s'est passé avant n'a pas eu lieu, l'annonciation, la nativité, etc. Il n'est pas impossible que la source, bon là c'est un petit peu de la critique exégétique, mais que la source soit différente. Vous savez qu'il y a eu prolifération de textes qui n'ont pas été souvent retenus par le canon des Écritures, des textes apocryphes, où on s'est demandé mais qu'est-ce qu'a pu être l'enfance de Jésus, hein, cette vie cachée à Nazareth, dans l'atelier d'un charpentier. Et l'évangile de Thomas, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un évangile apocryphe, a multiplié des scènes un petit peu merveilleuses autour de l'enfance de Jésus. Donc ici, on a l'impression que c'est un de ces textes-là, mais qui a passé la rampe, qui a passé le verdict d'un jury. Il a été canonisé parce que c'est un texte extraordinaire. Où on voit effectivement Jésus au milieu des docteurs, parlant avec simplicité et disant spontanément à ses parents qui le cherchent donc, qu'ils auraient dû savoir qu'il était dans la maison de son père.
Oui.
Dans les choses de mon père. Pourquoi la maison là ?
Parce que la question, c'est que tois, on ne sait pas si c'est un neutre ou si c'est un masculin. Et donc, ça peut être aussi bien les choses que ceux de mon père. Et ceux de mon père, ce seraient les gens, finalement. Ce serait la maison, ce serait la famille, finalement. Mais ça, c'est ceux de mon père, c'est ce qu'on voit peut-être un peu, par exemple, dans Matthieu 12 après, hein. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui met un frère, une sœur et une mère. C'est-à-dire que ceux de mon Père, c'est ceux qui sont dans la fidélité à Dieu, qui le cherchent, etc. Donc voilà, en fait.
Il y a aussi un pluriel emphatique, quelquefois, pour parler du temple. Dans l'éparvis du Seigneur, on dit ça. Hein. Une vie dans l'éparvis du Seigneur en vaut plus que mille, etc. Donc on a pu se demander si ce n'était pas un pluriel emphatique. Pour parler justement de, Parce que c'est un ensemble de constructions, le temple. C'est...
Enfin là, il n'y a pas marqué maison, en tout cas, dans le texte grec.
Non.
Ça, c'est clair.
Non.
Hein.
Non, non.
Ça, c'est clair. Mais que je dois être... Oui, on peut traduire... oui, pour m'occuper des affaires de mon père, ou parmi ceux de mon père. C'est-à-dire parmi... voilà. Alors... oui, ça, je crois qu'effectivement, c'est une bonne question. D'ailleurs, souvent, quand il y a ambiguïté dans le texte de l'Évangile, à mon avis, c'est souvent un peu un clignotant pour dire, écoutez, là, lisez avec attention, parce que c'est un texte qui a été spécialement bien construit et on touche souvent à la pointe du texte, à ce moment-là. Et l'ambiguïté est souvent intéressante comme étant un peu un... une harmonique qui fait jouer deux sens en même temps, et ça c'est assez intéressant. Donc il est à la fois les deux, je crois. Il s'occupe des affaires de son père, c'est-à-dire il commence un petit peu la mission qui est sa vocation d'être source de révélation de Dieu dans le monde, de son père dans le monde, et en même temps il est au milieu de ceux qui s'occupent des affaires de Dieu. Et en même temps, c'est un peu révélateur de là où est le Christ en nous. C'est-à-dire, voilà, on a dans les évangiles, voilà, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un peu ça qui se dit aussi, si vous voulez. Le Christ, il est présent parmi ceux qui s'occupent, qui cherchent Dieu dans ce questionnement sur Dieu. La présence du Christ, c'est là qu'il faut la chercher. Et en même temps, dans les affaires, dans cette mission, dans cette action de Dieu dans le monde, c'est là qu'on peut voir les traces de Dieu dans l'histoire, dans notre vie, dans ce monde. Et là, je crois qu'on a, des pistes pour rechercher, la présence de Dieu dans notre vie, du Christ, du salut de Dieu dans notre vie, je crois. Et ce texte, je pense qu'on peut le lire comme ça. On peut le lire pour voir ce que Jésus nous dit, du sens même de la vie humaine, de qui est Dieu. Et c'est intéressant. Parce que en suivant Jésus comme ça, on voit que en même temps, nous avons une dimension humaine, nous suivons nos parents, et en même temps, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais, Jérôme, sur la fidélité à ses parents, et en même temps, avoir son propre itinéraire, ne pas en être esclave, ne pas les statufier, on l'a bien ici. En même temps, il suit ses parents, et à la fin, il les suit bien gentiment, etc., et il se laisse nourrir, donc c'est très bien. En même temps, c'est pas de la soumission aveugle et stupide. Il sait ce qui, voilà, il est aussi dans une authenticité personnelle qui peut les conduire, qui peut le conduire, même à 12 ans, commencer à dire à ses parents, bon, écoutez, il faut aussi que j'ai ma vocation, j'ai mon cheminement, et j'ai aussi dans ma relation à Dieu là une autre fidélité, une autre filiation. Une autre fidélité à Dieu, à moi-même, voilà, et ça je crois que c'est important. Et en même temps, on peut suivre avec Marie et Joseph, souvent Marie et Joseph, à mon avis, Marie en particulièrement, c'est le type même du croyant, dans ce qu'elle a de mieux, et puis dans ses difficultés, dans ses limites aussi. Et donc là, au début, Marie et Joseph... ses parents, hein, c'est, là il y a marqué, donc oui, c'est ses parents au sens même, ses géniteurs, quoi. Eh bien, ils s'occupent de Jésus pour qu'il grandisse, qu'il se fortifie. Voilà, bon, il y a une part de Dieu, la grâce de Dieu était sur lui, donc il y a une part, un mystère de Dieu pour faire grandir en nous l'enfant de Dieu, mais on peut quand même, comme Marie et Joseph, travailler à la croissance très concrètement, par un petit effort quotidien de Jésus-Christ en nous et de Jésus dans le monde, de présence de Dieu, source de vie, source de bénédiction dans le monde. Et puis, Marie et Joseph, ils font le pèlerinage, comme ça se fait d'habitude, un peu mieux même que ça se fait d'habitude, parce que normalement, les femmes n'étaient pas obligées d'y aller, donc Marie aurait très bien pu rester chez elle à faire la vaisselle, comme les femmes étaient supposées le faire à l'époque, même malheureusement peut-être un peu trop encore aujourd'hui, mais... Enfin bref, ils font le pèlerinage, et puis ils oublient Jésus. Ben ça, je veux dire, ça peut nous arriver. Il y a une façon de faire la religion, on fait la religion, puis on oublie la foi sur place, et on repart tout content d'avoir bien fait sa religion, ben la foi, on l'a oubliée, en fait. On a bien fait sa religion, on est quitte. Et c'est un peu ce qui leur arrive.
Hein, ils on font peut bien aller la à Lourdes religion. Et oublier Jésus, oui.
Oui. Voilà, c'est vrai. Donc je crois que là, il y a une façon de faire la religion qui peut être source de vide, hein, etc., de faire place à Dieu dans son existence. Et puis, ben, ça peut arriver, même à Marie et Joseph, de faire un joli petit pèlerinage, tout bien, et puis d'oublier que le pèlerinage, l'acte religieux, c'est normalement, c'est fait pour être au service d'une ouverture à Dieu, mais que ça peut arriver, si c'est mal placé, ben, que ça soit l'occasion d'oublier l'essentiel dans le temple, et puis de repartir sans, tout content avec sa famille. Mais en même temps, là, ils s'en retournèrent en oubliant l'enfant. Le verbe se retourner, c'est le verbe de la conversion. Donc, ce n'est pas du tout neutre, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est, ils se déconvertissent. Ils se détournent de l'essentiel. Et ça, c'est un vrai problème. C'est normal de se détourner de la religion pour retourner chez soi, parce que c'est une respiration. Il y a un temps pour la religion, il y a un temps pour le sabbat, puis il y a un temps pour la vie en ce monde, l'action en ce monde. D'accord, ça, ça va. Mais sans retourner en oubliant Jésus, ça, c'est quand même un peu plus problématique. Donc, ils se déconvertissent. Mais ça peut arriver, hein, comme le diable entra dans le cœur de Judas, il décide de... C'est ce que dit l'évangile selon Luc, en fait. Hein, parce que Luc, c'est un évangile qui est spécialiste, qui insiste beaucoup sur la liberté de l'homme, sur sa capacité à se convertir et à se déconvertir. Judas, dans l'évangile selon Luc, dans un sens, il est converti et il se déconvertit en trahissant, en abandonnant Jésus. Là, dans un sens, Jésus, Marie et Joseph se déconvertissent, sont un peu Judas à ce moment-là, s'ils oublient Jésus, le trahissent, hein, etc. Sauf qu'ils font une journée de route. Ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et leurs connaissances, et ils ne le trouvent pas là. C'est-à-dire que la présence vivante de Dieu, sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la mémoire du passé, etc., on n'y trouve pas toujours Dieu. C'est-à-dire que dans nos connaissances et dans notre parenté, Dieu est plus dynamique que ça. Il ne fait pas partie des meubles, si vous voulez. La présence vivante de Dieu, on peut l'apprendre et s'ouvrir avec une méditation sur le passé puis dans notre connaissance, mais il n'est pas vraiment là, il est plus dynamique que ça. Mais alors, ils s'en rendent compte et ils retournent de nouveau, en fait. Ils revinrent toujours à sa recherche. C'est le même verbe, se retourner, se convertir. Mais là, vous voyez, ils réagissent bien, c'est-à-dire que, ayant perdu un peu de vue l'essentiel qu'est le Christ, source de la présence agissante de Dieu dans leur vie, ils ont un moment de faiblesse, mais assez vite, ils réagissent pour le rechercher, et ils vont le rechercher dans le point fondamental, finalement ils vont le rechercher à Jérusalem, bon, symboliquement on pourrait le rechercher au cœur même de la foi, de la religion peut-être, c'est le moment de retourner à la religion finalement.
C'est un clin d'œil. Ouais.
C'est un clin d'œil, ouais. Il retourne là, et il le trouve où ? Au milieu des théologiens discutants, donc en fait il le retrouve dans un questionnement fécond, et ce qui est assez rigolo c'est que on pourrait dire le Christ, il a les réponses, etc. Mais c'est pas tellement les réponses qui font avancer, c'est plutôt les questions. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il passe son temps à les écouter et interroger. Et ça, c'est peut-être vraiment une fonction du Christ en nous. C'est nous écouter, nous permettre vraiment de nous écouter en vérité, d'écouter peut-être Dieu aussi, et source d'interrogation, finalement. Cette présence de Dieu en nous qui nous écoute, qui écoute notre parole, notre voix, ce que nous sommes, qui nous reconnaît, et en même temps qui nous interroge, qui nous pose question, voilà. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses, mais ses réponses, en fait, c'était des questions. C'est comme bien souvent, le Christ répond par des questions, en fait. Mais c'est vrai que je crois que, voilà, c'est tout d'un coup, ce questionnement permet à Marie de questionner, et en même temps, lui, là encore, ben voilà, il répond par une question, par une interrogation fondamentale qui leur fait découvrir un pas de plus. Vous voyez, donc je crois que dans ce texte, il est comme souvent très riche, il dit en même temps quelque chose sur Dieu, en même temps quelque chose sur la manière de le trouver dans notre vie et de se laisser interroger, nourrir, par la présence agissante de Dieu dans notre vie.
Alors bien sûr, en relisant le texte, je me disais que trop souvent, en fait, ce texte peut-être, parce que vous savez, c'est un des mystères du rosaire, donc on a tendance aussi à le statufier et à en faire une scène de vitrail. Alors que ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il y a de la tension, il y a du drame, il y a de l'adrénaline, en fait, parce que 3 jours, alors en dépit même de la lecture symbolique des 3 jours de cette petite mort, bon, et il y a effectivement, si on pense à ce que sont les fêtes de pèlerinage, les fêtes de pèlerinage à la Mecque, par exemple, c'est ça, il y a des bousculades, on a peur, vraiment, on tremble. Pour des parents, on tremble. Je n'ose même pas imaginer si j'avais fait ça à 12 ans à mes parents. Donc, et les mots sont forts, d'ailleurs. On dit « ils furent saisis d'émotion ». Le mot grec est assez rare, d'ailleurs, et évoque quelque chose de vraiment une perturbation. Hein. « Nous te cherchions angoissés ». C'est des mots qui ne sont pas si fréquents, qu'on trouvera au moment de l'agonie, qu'on trouvera au moment de la passion, mais il y a quelque chose là déjà de quelque chose de dramatique. Et même, je dirais que la stupéfaction des docteurs, ils étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. On voit bien que même les docteurs sont dans quelque chose qui les déconcerte. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'imprévisible, de l'imprévu. Et au fond, pour l'acte de foi, pour la manière dont nous posons nos actes de foi, c'est quand même très intéressant. C'est pas un monde... Alors, le clin d'œil, c'est qu'évidemment, on est au temple. Et aujourd'hui, chercher Jésus, c'est chercher Dieu. Donc, on pense église, on pense temple. Mais là, évidemment, il ne pense pas. Et je pense qu'il y a une ironie de la part de Luc dans le récit. Parce que Luc sait très bien comment il va conduire son récit. Et que Jésus, 30 ans plus tard, enfin, moins, 20 ans plus tard, reviendra dans le temple, ou il enseignera dans le temple. Mais il n'en fera jamais sa base arrière. Il enseigne dans le temple comme il enseigne aussi sur les routes de Judée ou de Galilée, au bord du lac, sur la montagne, dans les synagogues, etc. Effectivement, ici, le temple, le centre même du culte, eh bien, c'est l'endroit où, spontanément, dans la caravane, dans les décibels, parce qu'il faut imaginer un monde très coloré, avec ses senteurs, ses bruits, etc., un monde très, très pittoresque, hein. L'angoisse, la chaleur, tout ça aidant, la scène, en fait, est très, très, très perturbante pour une famille, et je pense qu'ils ont dû, ensuite, le lui rappeler. C'est pour ça que c'est assez amusant, effectivement, comme tu le disais, l'évangéliste a besoin de décélérer à la fin. Et il dit, il revint à Nazareth et il leur était soumis. Voilà, pour les 10 années qui viennent, bouclé. Ce qui veut dire que là, cette scène de révélation, elle est presque accidentelle. Elle est presque de l'ordre d'une épiphanie. C'est une épiphanie qui a lieu, mais qui, au fond, perturbe un petit peu le bel ordonnancement d'une vision qui serait uniquement apologétique ou hiératique ou hagiographique, hein, qui raconterait la vie. Ici, il ne s'agit pas de raconter la vie d'un saint, d'un petit saint, ce n'est pas ça. C'est bien autre chose. Effectivement, c'est quelqu'un qui répond en posant des questions, c'est quelqu'un qui... au fond, quand il répond à sa mère, est tellement au-delà, tellement sur un autre plan de réalité qui est précisément cette filiation plénière qu'il vit avec Dieu, qu'il y a là bien autre chose que de la géographie. Hein. C'est pas les Fioretti, c'est quelque chose qui méritait effectivement d'entrer dans le canon des évangiles. Alors on peut peut-être terminer par le texte de Matthieu. Il est bref, on le lit peut-être parce qu'il est moins connu. Matthieu 12. « Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » À celui qui l'en informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Étendant sa main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère. Alors, c'est amusant de voir que ses parents, sa parentèle, ses frères, on ne parle pas de sœurs ici, mais par ailleurs, on dira qu'il a des sœurs. Donc, ses frères et sa mère sont au dehors. C'est dit deux fois, d'ailleurs. Ils sont au dehors. Encore une fois, ils ne sont pas dedans. Et évidemment, ça intervient à un moment de l'évangile de Matthieu où Jésus est en conflit direct avec des groupes sociaux, avec des lobbies. Avec et je crois que d'ailleurs, dans toute vie d'homme qui cherche une certaine authenticité, il faut consentir à se mettre à dos un certain nombre de puissances instituées. Et là, c'est la famille, qui est aussi un groupe social. Et ça intervient avant que Jésus rappelle que nul n'est prophète en son pays et qu'effectivement, l'accès à l'identité, là où on pense qu'il est le plus évident, c'est-à-dire dans le premier cercle, où on se connaît depuis toujours, où on vibre au même souvenir, où on a la même mémoire, eh bien c'est précisément là que la révélation n'arrive pas à se faire, précisément par excès, peut-être, vous savez, il y a des excès de lumière qui aveuglent, par excès de présence, il y a là une impossibilité. Et alors, de manière évidemment très nouvelle, Jésus redéfinit ce qu'est la famille. La famille n'est plus... C'est drôle, on n'a pas choisi le texte du sacrifice d'Isaac pour cette année, la ligature d'Isaac, qui est aussi une remise en cause du lien familial, où on voit finalement que Abraham, qui tenait Isaac serré contre lui et qui va le lier sur l'autel du sacrifice et qui au dernier moment découvre que sa paternité n'était pas la bonne, que c'était au fond une paternité narcissique ou une paternité possessive, et qui découvre que la paternité, c'est d'être au service, que la paternité, c'est précisément d'abdiquer un certain pouvoir. Eh bien, c'est un peu cette expérience que Jésus demande, à savoir que dans l'expérience de la paternité et de la maternité, il y a un renoncement qui est inscrit. On ne fait pas des enfants pour soi et la parentèle de Jésus n'a pas plus de droit à accéder à lui ou à comprendre qui il est ou à monopoliser le discours théologique, quasiment christologique, sur lui. Ils n'ont pas plus de droit parce qu'à un moment, dans cette nouvelle conception de la famille, Jésus montre qu'il faut renoncer à une forme de prérogative et que finalement c'est son Église, l'humanité qu'il rassemble autour de lui et cette nouvelle fraternité qu'il va initier, qu'il va inaugurer entre les hommes, y compris entre membres d'une même famille d'ailleurs, mais aussi beaucoup plus largement, que c'est cette nouvelle famille qui vit du sang même de Dieu, du patrimoine génétique même de Dieu, et non plus seulement par la loi du sang, du lignage, du clan, de la tribu, qu'il va falloir faire passer d'une conception de la famille à une autre, et que, évidemment, c'est douloureux. Et c'est pour ça qu'en général, on lit toujours cette scène avec un petit peu de commisération ou d'empathie pour Marie, parce que c'est un peu dur.
Oui. Alors, je crois que c'est dans l'évangile selon Marc, il y a marqué que sa mère et ses frères veulent s'emparer de lui parce qu'il prend même pas le temps de manger, en fait. Et donc, en même temps, je comprends ce lien du sang. Ils voient leur fils, ils voient leur frère, qui, ça a été deux jours qu'ils discutent, il est prêt à tomber dans les pommes parce que Jésus n'est pas que une sorte d'ectoplasme, si vous voulez, la sorte d'hologramme de la présence de Dieu. C'est un C'est d'abord un homme de chair et de sang qui a besoin de manger aussi pour pas tomber dans les pommes, si vous voulez. Donc il y a sa famille qui se dit, mais il devient fou. Et c'est vrai que dans l'évangile selon Jean, on voit ses frères qui là sont plus contre lui. On dit, je crois que c'est Jacques le majeur, et il lui dit, mais c'est l'heure de la Pâque, c'est le jour de la Pâque. Il dit, mais vas-y, toi qui veux faire le malin, finalement, vas-y, à Jérusalem, c'est le moment. Il y a tout le monde qui est là-bas, vas-y enseigner. Et puis Jésus dit, bah, écoute, occupe-toi de tes affaires, moi, je sais ce que je dois faire. Il y avait ce doute, effectivement, quand même, de la famille de Jésus, sans doute, qui avait plus de mal que n'importe qui d'autre de comprendre que Jésus était le Christ. Bon, en fait, dans l'évangile selon Jean, par contre, on montre Marie qui très vite passe de la mère qui donne des ordres à Jésus, qui joue la mère juive, j'allais dire, et qui devient disciple de Jésus à la fin de l'histoire, dans les noces de Cana, dès Jean 2, et qui, bon, disparaît dans tout l'évangile, mais qui apparaît à la fin avec une place très importante au pied de la croix. Donc ça veut dire qu'elle en a tout le temps de l'importance. Mais là, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'effectivement, dans l'évangile selon Matthieu, elle met quand même du temps à passer de la mère à la disciple. On sait dans les Actes des Apôtres qu'ensuite elle est disciple. Donc il y a eu cet itinéraire, elle le fait sans doute, si vous voulez, historiquement. Mais pour nous, je crois que c'est assez difficile quand même de renoncer à ce que Dieu soit à notre service et à nos ordres, finalement. C'est pas très facile. Et d'ailleurs, dans nos prières, quand les gens demandent « mais qu'est-ce que je dois demander à Dieu ?» Est-ce que je machin ? On est toujours dans l'idée que Dieu est à notre service. Voilà. Qu'on lui donne une liste de courses, ou on lui donne une liste de cadeaux de Noël, comme on le fait quand on était petit, tout ça. Et on demande des choses à Dieu, on demande. Et quelque part, il faut apprendre. Il y a un retournement de l'évangile en disant « tout est donné par grâce ». Et il y a un moment, il faut discerner. Voilà que la bonne posture, peut-être, c'est pas celle de s'emparer de Dieu, de vouloir le nourrir, de vouloir lui donner des ordres, comme Marie, hein, dans les débuts des noces de Cana, dans Jean, et tout d'un coup de devenir dans un basculement, faites ce qu'il vous dira, quoi. Et puis Marie qui suit Jésus, ensuite, à la fin de cet épisode des noces de Cana en Jean 2. Ici, c'est un peu ça, c'est ce retournement qui est en question. Il y a un moment, il faut sentir que la juste posture, en même temps, c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure, on est appelé à être père et mère de sa propre foi, dans un sens, et dans le monde, à agir, à nourrir le Christ en nous, notre foi, de travailler dessus, de l'entretenir, donc quelque part, d'être père et mère de cette foi, mais il y a un moment, il faut quand même opérer ce retournement où on se place à l'écoute de... On renonce à être supérieur à sa foi et à cette présence de Dieu en nous. On accepte de se laisser, de la reconnaître, de lui donner du poids, de l'honorer peut-être. C'est ça. Alors ça dit peut-être aussi quelque chose de la relation parent-enfant, bien sûr, dans ces textes. Et ça, c'est quand même hyper important aussi, je dirais, pour ce qui est de l'ordre de la grâce. Les parents, ça c'est un peu un bateau, hein, qu'on lit toujours, les parents veulent nous faire lire ça pour les baptêmes, c'est pas mal du tout. Khalil Gibran, là, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les fils et les filles. Bon, c'est un petit peu du Petit Prince, hein. En même temps, c'est très sympathique, c'est pétri de bonne intention, c'est tout à fait vrai, c'est des très bons conseils. Donc, je dirais qu'il y a un peu de ça quand même, c'est-à-dire que voilà, il faut... on pourrait tout à fait en faire une lecture en disant, ben, il faut quand même un peu... laisser tranquilles nos enfants, les laisser s'épanouir, faire leur propre chemin. Mais ça, c'est du simple bon sens. C'est plus... L'Évangile peut nous faire réfléchir sur ces questions très pratiques, éthiques. Mais ça, ces bons conseils, ça ne sert à rien, en fait, si je puis dire. Enfin, ça ne sert pas tout à fait à rien, mais il faut le sentir. Hein. Il faut que ce soit encore plus, pas dans la leçon, mais dans un vrai lien de relation et de respect pour la personne. Donc c'est en amont, je crois, qu'il faut travailler. Et ces textes, dans notre relation à Dieu, il y a un vrai travail, je crois, sur la dignité intrinsèque, infinie de chaque personne, et de reconnaître dans n'importe qui, dans son écoute de l'essentiel, dans son orthopraxie aussi, celui qui fait la volonté du Père, c'est-à-dire, hein, c'est... y reconnaître là un frère et une sœur du Christ. C'est quand même hyper libéral, si vous voulez. Ça veut dire qu'un bouddhiste qui fait preuve de compassion, il est frère du Christ. Alors nous, on aimerait mieux qu'il récite le credo de Nicée-Constantinople à l'endroit et à l'envers.
En latin.
Et en latin. Ou en grec, je ne sais pas si c'était l'original.
Oui.
Mais on aimerait mieux, si vous voulez, puis qu'on puisse discuter. Mais en fait, il y a une ouverture incroyable du Christ là, hein, disant, voilà, reconnaître un frère et une sœur dans un être humain qui écoute la parole de Dieu, voilà, et qui a un acte de compassion aussi. Voilà. Et ça, on le retrouve hein, dans pas mal de passages, si on veut bien voir. Par exemple, dans la première lettre de Jean, il est marqué « Dieu est amour, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». C'est quand même sacrément fort. C'est-à-dire que celui qui fait preuve d'un peu de vraie compassion, de vraie grâce, un simple acte de bienveillance en passant, mais c'est Jésus qui dit dans la parabole des jugements des nations, celui qui a donné une fois un verre d'eau à un petit, il est finalement...
Il connaît Dieu.
Il connaît Dieu, il est dans le royaume de Dieu. C'est quand même hyper libéral. Hein. C'est quand même hyper libéral. Il ne s'agit pas. À ce moment-là, quiconque a foi dans le Fils, il a la vie éternelle. Mais ce n'est pas de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre de la... Du lien intime avec cet ultime qui est Dieu, dans un sens. Mais c'est quelque chose, je crois, qu'on peut découvrir là. Il ne s'agit pas simplement de lien du sang, bien entendu. Ça, c'est une polémique contre les Juifs aussi. Ils disent, voilà, hein, on est fils d'Abraham, donc on est dans le peuple de Dieu. Il dit, écoutez, il ne faut pas rigoler. Hein, ça. Mais ça, on l'a ailleurs, hein, dans le dialogue avec Jean-Baptiste, qui dit, écoutez, il ne faut pas rigoler. Hein. Jésus le dit aussi, oui. C'est pas une question de filiation par le sang. Alors chez les protestants, on a il y a les enfants de rameurs, ceux qui étaient au XVIIIe siècle sur les galères au nom de la foi. Alors là, eux, je veux dire, ils ont l'impression que à cause de leurs ancêtres, ils sont Sainte Blandine à côté de leur famille, c'est rien du tout. Hein. Mais c'est vrai que si vous voulez, je rigole, mais il y a des gens, hein, mais nous-mêmes. Hein, on pourrait avoir l'impression qu'à cause de notre orthodoxie, voilà, on a une bonne théologie, on va bien, tout bien, machin, et donc on serait plus croyant. Mais ça n'a rien à voir, hein, si vous voulez. C'est ce que nous dit Jésus, là, quelque part. Hein. C'est pas une question de sens, c'est pas une question... Ça se joue ailleurs dans la vie profonde, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça, je crois que c'est quand même assez bon de se le rappeler. C'est pas un pavé lancé dans la figure de sa mère, faut pas rigoler. Si
voilà.
Vous voulez, ça se joue ailleurs, hein.
Oui, je voulais juste terminer par ça, c'est-à-dire la place de la famille, de nos familles, puisque nos attachements sont quand même de cet ordre-là, et nul doute que Jésus vit aussi cet attachement. Hein. Ce n'est pas un détachement surhumain ou inhumain, et ce n'est pas ce qu'il demande. Nos attachements naturels sont bons, ils sont voulus par Dieu. Simplement, ce sont des attachements de créatures, et nous sommes appelés de créatures à devenir fils, et effectivement, si on devient fils... On devient frère, on devient co-héritier avec le Christ, on devient frère du Christ, frère des autres. Et donc, il y a quand même un nouveau plan, une nouvelle famille qui se crée. Hein, ça ne supprime pas les autres. Hein. Jésus ne fait pas une crise d'ado, de rébellion anti-bourgeoise, comme Gide, famille je vous hais, vous savez, dans les nourritures terrestres. Ce n'est pas famille je vous hais, d'un côté. Et de l'autre côté, ça n'est pas non plus... une fraternité abstraite, maçonnique, ou qui n'aurait plus d'histoire ou de chair. Il ne s'agit donc ni de famille je vous hais, ni d'une fraternité internationale ou je ne sais quoi, qui serait fondée sur une idéologie. Ça n'est pas du tout ça. Jésus n'exclut pas la famille naturelle, mais il lui demande de prendre une place nouvelle. Hein. Et cette manière d'aimer d'une manière nouvelle sa mère et ses frères, c'est pas une manière de les aimer moins. Il leur dit pas oh, vous n'êtes plus rien pour moi, non, c'est de les aimer autrement et peut-être même davantage.
Alors voilà, on va se retrouver la prochaine fois, c'est le 8 février, c'est dans pas tellement longtemps en fait, 8 février, donc à 20h, mais c'est à Saint-Eustache, donc 2 impasse Saint-Eustache, ça ouvre dans le début de la rue Montmartre. Et nous lirons le Notre Père. Donc là, c'est vrai que comme on le connaît un peu par cœur, eh bien, ça permettra de le redécouvrir et de l'étudier en profondeur. Voilà. Donc bon retour. Merci de nous avoir rejoints et bonne route à chacun.
Bonsoir et bonne année, puisque finalement, moi, je n'ai pas eu tellement l'occasion de le dire en début.